La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale. Une émission de Radio Campus Angers, réalisée depuis nos maisons.
Bonsoir à toutes et à tous, 18h sur Radio Campus Angers, il est l'heure de la Covidienne, votre quasi-quotidienne du confinement. Nous sommes ensemble pendant une trentaine de minutes et au programme de l'émission de ce soir, Manon est allée à la rencontre de Cécile Guézé qui nous parlera du regroupement des trois musées d'Insolites d'Anjou. Pour la suite, un nouveau numéro du répondeur parleur orchestré par Radio Parleur. Et pour terminer l'émission, Iris est de retour pour une chronique plutôt osée où elle vous parlera de certains bienfaits du Covid-19. On revient dans quelques instants. Pour commencer cette émission, comme convenu, je laisse la parole à Manon qui vous fera découvrir les trois musées insolites de l'Anjou. Tendez bien l'oreille et on se retrouve juste après.
J'ai avec moi au téléphone Cécile Guézé afin de nous parler du groupement des trois musées insolites en Anjou. Bonjour et bienvenue à vous dans notre Covidienne.
Bonjour.
Il me semble donc que vous travaillez sur la communication au niveau des musées municipaux du 49.
C'est ça, exactement.
Ça fait longtemps que vous travaillez dans ce milieu ?
Alors, je travaille depuis maintenant bientôt 6 ans sur cette structure qui est un petit peu une structure particulière. J'ai la chance de travailler pour trois musées différents en Anjou, du coup, dans l'Est angevin, plus précisément dans le Beaujois, et en communication. C'est pas mon travail d'origine, parce qu'à la base je suis médiatrice culturelle, mais finalement être médiateur c'est partager des connaissances et la communication c'est un petit peu pareil. Donc l'idée c'est vraiment d'être là pour parler de nos trois musées.
Donc vous avez quand même un parcours assez spécifique avec l'art, etc. J'imagine que c'est un petit peu lié aussi à une passion.
Oui, complètement. J'ai fait des études d'histoire de l'art, qui sont des études qui nous permettent de voir l'histoire autrement, par le biais de l'image, et puis tout avoir une sensibilité à l'art et au monde des œuvres d'art. Et effectivement, c'est de là qu'est partie ma passion pour les musées. D'abord art plastique, puis ensuite je me suis rendu compte que j'étais pas très douée à la pratique. Donc du coup, je me suis plutôt bordée sur la connaissance. Et de musée en musée, je suis arrivée dans les musées de la direction associée des musées.
Vous êtes au téléphone donc avec nous aujourd'hui pour nous parler notamment des trois musées insolites d'Anjou. Qu'est-ce qu'on appelle au final insolite dans le milieu des expositions d'art ?
Alors nous, clairement, on a fait le choix depuis peu, du coup, de prendre cet axe de communication sur nos trois musées, donc le musée Joseph Bonnet, le musée Jules Desbois et le musée d'art et d'histoire qui se trouve à Beaugé. Tout simplement parce que ce qu'il y a d'insolite déjà, c'est d'avoir des musées dans des communes comme celle-ci. Alors en particulier, par exemple, à Parcelles-les-Pins, c'est un village de 800 habitants qui tient un musée d'art du 19e exceptionnel. Donc le côté insolite, c'est vraiment d'avoir ça à cet endroit-là. Et puis aussi, on a une politique d'exposition contemporaine dans nos musées qui a pour vocation, on va dire, ou objectif, que les habitants, que les touristes soient complètement étonnés, surpris par nos propositions. On veut vraiment avoir quelque chose d'accessible, de poétique, de ludique, mais vraiment on est une vraie découverte artistique et émotionnelle. Donc l'insolite, il est là, c'est de se retrouver à cet endroit-là, en plein milieu du Beaujois.
Parce que oui, du coup, je voyais, donc comme vous le disiez, il y a un musée d'ethnographie, un autre de cabinet de curiosité et un autre plutôt axé sur la sculpture. Vous avez réussi un petit peu à faire du coup des liens entre ces trois musées pour pouvoir les regrouper assez facilement.
Alors ils ont deux points communs. Déjà le côté insolite, ce dont vous parliez juste avant. Et l'autre gros point commun, c'est qu'on a tous les trois un lien avec le 19e. Le musée Joseph Denet, donc c'est un cabinet de curiosité du 19e siècle qui a ouvert en 1905, créé par un journaliste local. On a en même temps, la même année, en 1905, le musée d'art et d'histoire qui a ouvert, avec des collections qui ont été fondées par les habitants de Beaugé en Anjou. Et en même temps, on a le troisième musée, c'est la sculpture 19e. Donc ils ont ce gros point commun qui nous permet d'avoir une communication commune.
Je voyais aussi qu'il y avait des activités en général que vous mettiez en place. J'imagine que ça participe aussi à ce développement du milieu artistique, avec des visites scolaires, des conférences, des rencontres, des ateliers. C'est important un petit peu de pouvoir mettre tout ça en place pour sensibiliser les spectateurs, entre guillemets.
Ce qui est important, en fait, c'est que les gens puissent leur permettre d'avoir un échange, parce que les musées aujourd'hui, on peut avoir une image un peu poussiéreuse d'un endroit où peut-être certains pourraient penser qu'ils s'ennuient. Et donc finalement, par le biais de toutes ces animations, ça permet en fait d'avoir un moment d'échange, de créativité, de pédagogie. Donc là, ça soit avec les scolaires ou non d'ailleurs. L'idée, c'est d'avoir toutes ces propositions et puis aussi de connaissances, parce que finalement, l'idée, c'est aussi de programmer des conférences, des rencontres avec des spécialistes de plein de domaines différents. Une envie aussi de faire vivre les lieux. Ce sont des lieux de vie et non pas des lieux poussiéreux.
Et vous avez cette volonté, j'imagine, du coup, de vous adresser à tous les publics.
Alors aujourd'hui, ouais, la programmation elle est vraiment ultra large, avec là vous parliez de scolaire tout à l'heure, les plus petits pour en soi ils sont 1 an, 2 ans, qu'on fait des ateliers avec les relais d'assistantes maternelles, mais aussi on reçoit des lycées, voire des universités, et puis on va jusqu'à les groupes adultes classiques ou des personnes passionnées, voire même des foyers logements. Enfin voilà, c'est très très large, c'est très large dans les âges et puis c'est très large dans les types de publics. On a toute une politique adressée au public éloigné, avec les maisons familiales rurales, avec les IME, avec les centres sociaux. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir un panel. On ne se donne pas un public précis, mais c'est plein de publics différents. On dit souvent les publics et pas le public dans les musées.
Et je voyais aussi que vous valorisiez en plus de ça un accès à l'art pour les personnes, par exemple, en situation de handicap, avec différents dispositifs et des outils pour favoriser un petit peu l'aspect sensoriel. L'idée, c'est de pouvoir laisser un petit peu personne sur le bord de la route, entre guillemets.
C'est ça. Et puis, on a aussi une politique. L'idée, c'est vraiment on puisse proposer des activités larges, des outils en ce qu'on appelle en médiation libre, c'est-à-dire les gens qui viennent juste visiter puissent avoir accès aux outils qu'on utilise aussi en visite. Mais l'idée vraiment c'est de se dire que ces outils ils servent pas qu'à ce type de public, même un public valide qui n'a pas de soucis, qui est non malvoyant, qui est non en situation de handicap, peut être intéressé pour avoir accès à tous ces outils. Donc l'objectif, c'est quand on crée des outils, quand on met à disposition du matériel, c'est pour tout le monde. Et encore mieux si ça peut s'adresser aux personnes en situation de handicap.
Et j'imagine en tout cas qu'en cette période de confinement, vous avez dû mettre en pause la majorité des activités et des visites. Vous réussissez quand même à continuer à travailler un petit peu autour des musées ?
Alors, je ne cache pas que c'est un crève-cœur, parce que les musées ont dû ouvrir le 1er avril. L'ouverture des saisons, c'est un moment très très important pour nous, parce qu'on est fermé au grand public l'hiver. Alors, on n'est pas fermé hein, tout court, parce qu'on soit des scolaires tout l'hiver, mais c'est vrai qu'une réouverture de saison, c'est vraiment un moment de fête, hein, finalement, pour tout le monde. C'est la concrétisation aussi de tous les projets qui ont été menés en coulisses, des montages d'expositions, travailler avec des artistes. Et là, on n'a pas pu ouvrir. On fait du télétravail. C'est très bizarre de dire ça parce qu'effectivement, on fait du télétravail, mais on n'a pas notre public. Mais on en a profité pour travailler très activement sur le lancement d'un site internet. À partir du 15 mars, on s'est toute l'équipe mobilisée pour remplir au mieux nos sites internet qui devaient ouvrir en fait à cette période. Et donc, on a décidé au 1er avril de lancer ce site internet, à défaut d'ouvrir les musées. Donc, le site, c'est 3museesinsolitesenanjou.com. Et c'est vraiment l'objectif, c'est accès aux collections, aux anciennes expositions d'art contemporain avec des galeries photos et avoir le maximum d'informations sur ces musées, même si c'est pas dans un objectif de visite, mais vraiment dans un objectif de curiosité d'aller voir ce que c'est ces trois lieux.
C'est peut-être potentiellement compliqué aussi niveau mise en place de pouvoir donner accès à des collections en ligne au final de manière gratuite.
On est 3 musées qui sont inscrits dans le label Musée de France. C'est un objectif. Clairement que nos collections soient accessibles. Donc accessibles de plein de manières, c'est accessible en venant au musée, mais aussi accessible en les mettant à disposition. C'est un objectif des musées de France et là on essaye de le rendre encore plus que d'habitude. On ne peut pas mettre en ligne toutes nos collections, puisqu'on a 12 000 pièces. Mais le plus que l'on peut, surtout le plus on a fait en fait en sorte par rapport aux photos qu'on avait disponibles, parce qu'on n'a plus accès aujourd'hui au musée pour aller faire ces photos. On n'a plus ni le matériel ni le personnel pour pouvoir le faire, donc on a puisé un peu dans nos archives pour pouvoir mettre en ligne au moins un maximum des collections.
En temps normal, vous avez potentiellement des studios, etc. pour pouvoir faire ces photos ?
Alors, on a une personne qui travaille pour le département, qui est Armelle Maugin, qui est la photographe du département du service de l'inventaire et du patrimoine, qui nous rend service. Hein. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Enfin, le département nous met à disposition cette personne. Et elle vient à chaque fois créer un mini-studio quand on fait des campagnes photographiques pour des besoins, pour des expositions, pour des articles, pour avoir des photos des collections. Et donc, du coup, elle vient régulièrement. Alors, on a eu le nez fin, je ne sais pas, mais au mois de janvier, elle était venue faire une campagne photographique pour les collections du musée de Beaugé, par exemple. Donc, ça nous a permis de pouvoir mettre en ligne quelques pièces. On n'avait pas eu cette campagne, effectivement. Après, on a des photos qui sont des photos, clairement des photos de chercheurs très rapides qui nous permettent juste d'identifier les objets, mais qui ne nous permettent pas de les mettre à disposition.
Et l'idée, donc, j'imagine que globalement, c'est de pouvoir accompagner les publics pendant cette période de confinement, pour assouvir un petit peu leur soif de curiosité, etc.
Exactement. C'est pour donner envie de venir, déjà, plus tard dans les musées, hein, faut le dire. Mais aussi, ça peut tout simplement servir pour répondre à des questions. On travaille beaucoup avec les scolaires, on travaille sur le thème de la mythologie. Jusque-là, les enseignants, s'ils ne venaient pas au musée, ils ne pouvaient pas savoir ce que l'on possédait comme pièce qui parle de mythologie. Là, on a travaillé avec le développeur du site internet sur une possibilité de sélectionner par thématique. Et donc, du coup, potentiellement, les enseignants pourraient, par exemple, proposer à leurs élèves d'aller faire une petite analyse ou des petites recherches sur 3-4 récits mythologiques. Et vraiment, cette idée, c'est que ces fiches de collection puissent être utilisées. On a essayé aussi parfois de mettre des petits textes explicatifs pour donner un petit peu aussi, on va dire, de connaissances et non pas que la fiche d'inventaire.
Vous avez vraiment cette volonté à travers les différents musées d'avoir un aspect pédagogique?
Alors, c'est l'essence même, ouais. Oui, vraiment. Quand on dit pédagogie, c'est pas que pour les scolaires, c'est pour tout visiteur. C'est l'essence même de ces musées, c'est donner les clés pour mieux les comprendre, donner les clés pour plus, mieux apprécier aussi. Et donc, nous, vraiment, notre métier, il est là, et encore plus en milieu rural. On a envie que des visiteurs qui ne viennent pas, qui n'iront pas en ville pour aller dans les musées, puissent venir dans ceux-là et se les approprier. Donc, la notion pédagogie est au cœur même de notre mission.
Oui. Au final, grâce à ce site internet notamment, c'est une manière un petit peu de préparer la reprise, j'imagine. Est-ce que vous appréhendez un petit peu ce retour à la normale? Est-ce que vous pensez que les gens auront donc ce besoin de découvrir aussi des nouvelles choses, de venir au musée, de s'aérer un petit peu la tête grâce à ça?
Ben, on espère, on a hâte. La philosophie aujourd'hui, la direction associée des musées, qui sont des musées municipaux, donc derrière on a des élus qui soutiennent leur musée. La philosophie aujourd'hui et le choix qui a été fait, c'est de se dire que tout ce qui avait été imaginé n'est pas annulé, mais reporté. Mmh. On va décaler la saison. C'est pas grave, on décalera la saison et tout ce qu'on avait prévu sera juste pas au même moment. On a hâte parce qu'on pense effectivement, on pense la même chose, c'est que quand les gens pourront ressortir, ils auront envie de sortir de chez eux. Et clairement, on a cette chance, on est sur des petits musées avec des petites jauges de personnes. On reçoit, pas comme dans les grosses structures, dans une journée, 25, 30 personnes, 40 personnes sur un après-midi. Ce qui fait qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup de monde dans le musée. Donc, je pense que les gens vont en plus chercher des endroits où, effectivement, ils ne seront pas face à une foule qui va être la chose la plus dure à gérer. C'est vrai que nous, on n'a pas cette peur-là. On pourra gérer la quantité de personnes et ça va permettre forcément d'avoir des visites tranquilles et puis une ouverture sur le monde qui va être nécessaire, je pense, dans les prochains mois. Ouais.
Et donc au niveau de toute cette saison qui était prévue, il y a beaucoup d'expositions au final qui ont dû être reportées.
On ouvre en fait nos saisons forcément 1er avril avec des expositions, les nouvelles expositions. Donc là, ces expositions, elles ouvriront tout simplement plus tard. Et celles qui étaient prévues en ouverture après, elles ouvriront plutôt à l'automne au lieu d'être l'été. On ouvrait notre saison, par exemple, au musée Joseph Denet, sur une exposition qui était une exposition pour nous, qui était, sur laquelle on est très attachés. On met en avant nos collections textiles. On avait envisagé, et elle était déjà bien avancée dans la préparation, une exposition de textiles et de vêtements qui sont portés au grand jour parce qu'on a une très belle ancienne collection de vêtements depuis le 18e siècle qui sont un petit peu l'illustration de comment on s'habillait à une certaine époque pour les mariages, pour les grands événements de la vie de tous les jours, pour les grands événements, les cérémonies, pour les professionnels. Enfin, du coup, de l'accessoire, du vêtement, des photos, beaucoup liées à Beaufort et l'Anjou. Cette exposition, elle était quasi prête le jour où on nous a dit de rester chez nous. La salle est restée, restée sur pause, mais elle est presque prête à ouvrir. Donc quand on rouvrira, effectivement, cette exposition, elle aura lieu. Je pense que les habitants l'attendaient, donc on va pouvoir quand même la proposer. Et les animations qui étaient prévues, au lieu d'être aux vacances de printemps, elles seront disponibles cet été.
Les musées attendent patiemment une réouverture, en tout cas. Et donc, durant cette période, j'imagine que vos missions changent aussi. Ça doit être plutôt axé sur tout ce qui est numérique. C'est important pour vous d'être présent sur les réseaux, sur Internet, de garder le contact avec les personnes qui viennent visiter les musées habituellement?
Oui, oui. Puis je ne cache pas qu'on est très surpris par les chiffres de personnes qui fréquentent ces réseaux sociaux et qui nous suivent sur ce que l'on peut proposer. Par exemple, sur notre page Facebook, on a lancé une petite série de tutos liés à nos anciennes animations. C'est vrai que depuis 6 ans, sur le service des publics, on a des animations à chaque vacances, des animations à chaque fois qu'il y a des artistes qui viennent. Du coup, on a une quantité d'activités plastiques ou autres qui ont été faites. Et donc, l'idée, là, c'est qu'on les partage et qu'on donne des petits tutos pour que tout à chacun puisse se les approprier. Et on est ravis des résultats. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ça. Alors aujourd'hui, en quelques semaines, on n'est pas les seuls à faire ça. Mais du coup, ça, c'est plutôt rassurant, c'est plutôt plaisant. Puis ça permet aussi de garder contact, tout simplement.
Et ouais, les gens ont vraiment au final une demande de nouvelles choses à découvrir et aussi de concepts un petit peu originaux.
Voilà, exactement. On voit que c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est on a partagé par exemple un atelier à faire en famille à partir de sculptures, un atelier d'expression corporelle. Et c'est vrai que les gens du coup nous disent oh là là, en pratique d'activité manuelle, il y a plein de choses, mais il faut des choses qui changent. Donc du coup, par exemple, ça c'est une de nos publications qui a le plus fonctionné parce que les gens juste à suivre ce qu'il y a à faire, les questions qu'on peut poser aux enfants et ensemble s'amuser à faire de l'expression corporelle. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un besoin aussi, mais comme tout à chacun, on est chez nous et on regarde ce qui peut être fait à droite à gauche. Et puis je pense que c'est l'occasion aussi pour les parents de faire des choses qu'ils ne font pas habituellement. Ils ont l'école à la maison, puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour ouvrir un peu mes enfants, une culture qui d'habitude n'a pas forcément le temps de faire avec nos enfants. Donc voilà, c'est comme ça qu'on l'a envisagé.
En tout cas, malgré ces périodes de confinement, le programme est assez chargé et les gens ont la possibilité de découvrir de nouvelles choses. Je trouve que c'est de belles initiatives et on ne peut que vous souhaiter du courage pour la suite vis-à-vis de tout ça.
Merci
beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Donc, je ne peux qu'inviter fortement nos auditeurs à aller découvrir le site internet 3 musées insolites en Anjou pour faire voyager un petit peu nos esprits pendant ce confinement.
Merci à vous.
Merci à Cécile Guézet pour sa disponibilité et merci à Manon pour ce sujet. Ne bougez pas, on revient en quelques instants avec un numéro du répondeur parleur. C'est juste après Fortet Teenage Bird Song sur Radio Campus Angers. Thank you. Vous êtes sur Radio Campus Angers, place à un nouveau numéro du répondeur parleur, un reportage réalisé par l'équipe de Radio Parleur où le but est de recueillir vos avis, votre vie durant ce confinement. Ce numéro est consacré à l'ennui que vous pouvez parfois ressentir pendant cette période. On écoute.
Radio Parleur, bonjour. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente.
Allô ?
1, 2, 3, test, 4, 5, 6, test, test, test.
C'est toi mon chéri ?
Allô ?
Salut, répondeur du confinement.
Bonjour.
Bonjour.
Hello.
Est-ce que...
Qu'est-ce que tu fais ?
C'est pas mal le confinement, moi j'aime bien.
Je regarde dans ma tête.
Putain, c'est pas le moment. Restez chez vous. Allez, salut, hein. Super idée le répondeur, ça fait du bien.
Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade.
Yes, no, ok.
Salut, Radio Parleur. Bah écoute, moi ça va, je suis confiné près de la mer, en Bretagne. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus mal lotis que moi. Mais je me demande si je suis pas en train de devenir complètement fou quand même. Là, on est sorti avec ma copine. J'attends qu'elle fasse des courses à la supérette pour pas m'éloigner trop et qu'elle me perde pas, alors qu'on sait bien qu'on a le droit que d'être dans un périmètre de 1 km. Bah, je suis en train de marcher dans les deux mêmes rues avec vue sur mer, sans pouvoir aller sur la digue. C'est terrible. Voilà, donc je fais les mêmes rues depuis un quart d'heure. Je les sillonne. Je compte mes pas sur mon portable et je me demande si ce serait pas un motif approprié de révolution, voilà, pour retrouver notre santé mentale. Prenez soin de vous, en tout cas le confinement nous impacte tous, hein, même si on est Leïla Slimani. Allez, bisous et n'oubliez pas de dénoncer vos voisins.
C'est absolument infect tous les jours, sauf le dimanche, jour de fermeture.
Alerte coronavirus. Restez chez vous. Allez travailler ou utilisez une solution hydroalcoolique.
Alors moi, je vous appelle depuis la Guyane. Les mesures de confinement sont a priori les mêmes qu'en métropole, sauf que la situation est évidemment très différente ici. On sent aussi... une forme de tension à l'égard des gens qui sont exposés, notamment du personnel soignant, mais aussi des bénévoles. Il y a des bénévoles de la Croix-Rouge qui reçoivent des messages leur intimant de quitter le logement dans lequel ils habitent.
Quelle honte! Tu n'as pas honte, hein? Lâche!
Respectez 1 mètre de distance avec les gestes barrières. Saluez sans serrer la main les gestes barrières. Au 0800 130 30 0800 000 000 000 000. Plus d'informations au ministère chargé des mouchoirs à usage unique et de la maladie.
Bon, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'avec le confinement, en fait, mon corps, il était rentré en collision qu'avec un autre corps. Là où d'habitude j'imagine que j'ai plein de contacts, tu vois, dans le RER, le métro, avec mes amis, en soirée, enfin... C'est-à-dire que depuis un mois, j'ai touché juste une autre peau. Je sais pas du tout ce que ça peut produire d'un point de vue physiologique, le fait que les corps se touchent pas entre eux, mais je trouve ça hyper chelou.
On compte que l'argent n'a aucune valeur, en fait. Et aucune valeur. Et ouais. Aucune valeur parce que la Banque Centrale Européenne peut injecter 750 milliards d'euros comme ça sur une planche à billets. Et c'est là que tout ce qu'on fait dans sa vie, ça a du sens. Et donc moi, je pense que c'est important de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Ah, ça va être bientôt la fin.
Ceci est un message dans votre coude du coronavirus et de 00. Dans tous les cas, arrêtez les gouvernements à usage unique, jetez-les.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile.
Et ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
Répondeur du confinement, laissez-nous un message au 01 72 59 77 34. Plus d'informations sur radioparleur.net.
Merci à Radio Parleur pour le sujet. Même si l'ennui peut se faire ressentir et que c'est compliqué pour un bon nombre de personnes, Iris va venir vous parler de certains bienfaits du Covid-19 dans une chronique qui arrive juste après Awasu and the Soul Seed avec le titre Yesterday sur Radio Campus Angers. Sur Radio Campus Angers et je laisse comme promis la parole à Iris avec sa chronique sur les bienfaits du Covid-19. Bonsoir à toi Iris.
Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre le micro. Et oui, je suis de retour ce soir et pour la bonne cause. J'ai quelques précieuses et bonnes nouvelles à vous transmettre. C'est vrai que depuis quelques semaines, elles sont tellement rares avec le fameux coronavirus que je me suis dit que ce serait pas mal pour vous faire remonter un peu la pente de vous en parler de ce que j'ai lu il y a quelques jours relativement à ce sujet. Je vous assure, vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas besoin ni de masque ni d'hydrogel pour m'écouter les prochaines minutes. Je vous présente quelques des bonnes conséquences d'un tel malheur économique. D'une si grande et dangereuse crise sanitaire. Malgré la panique qui s'est installée dans le monde entier, il y a quand même quelques petits points positifs. Commençons donc par la baisse de niveau de pollution dans le monde entier. Sachez que grâce à ces mystérieux virus, une grande partie des industries sont mises à l'arrêt, ce qui signifie moins de production de CO2. À rajouter, bien évidemment, à la limitation des déplacements en voiture et en avion. Pendant que le virus se propage, on respire tous mieux. Je poursuis ces récits de bonheur avec le soulagement logement pour les pangolins. Qu'est-ce qu'ils respirent mieux eux aussi? Pas seulement à cause de la qualité de l'air, bien évidemment. Alors, avant l'épidémie, ces bêtes étaient très consumées, recherchées par les Chinois, à cause de sa chair qui était très appréciée par les plus grands chefs de cuisine, et aussi parce que la kératine de sa carapace était utilisée pour soigner différentes maladies, comme par exemple le cancer, la circulation sanguine, etc. La surconsommation des pangolins a donc mis cette espèce animale en danger de disparition. Mais depuis que quelques scientifiques ont suspecté que ça pourrait être un intermédiaire de transmission du Covid-19, elles revivent une belle période de tranquillité. Plus personne ne les fait chier. C'est marrant que le malheur de l'être humain soit synonyme de liberté et bien-être du royaume animal. Même les tortues, elles courent plus vite. Mais c'est loin d'être fini cette petite liste de positivité. Selon le bulletin de santé publique français publié le 4 mars, l'activité grippale, elle a aussi diminué dans la majorité des régions en métropole. Tout ça grâce aux gestes barrières qui sont devenus à la mode. Bon, c'est triste que la plupart des personnes nécessitent un rappel pour se laver les mains et respecter l'autre. Mais parlons de respect et d'hygiène personnelle une prochaine fois. On mérite tous entendre. Bravo ! On se lave les mains à nouveau ! Pour dire la vérité, même les kebabs ont un meilleur goût. En parlant de se laver les mains, depuis quelques mois, les établissements scolaires français, quelques-uns, se sont vus obligés de mettre des nouveaux distributeurs de savon dans les toilettes. Mais les établissements scolaires ne sont pas géniaux en France? Ah bah oui, apparemment non. Même pour des choses qui paraissent si basiques, on découvre que 72% des collèges disposaient des locaux dégradés, tandis que 62% n'étaient pas apprévisionnés un produit hygiénique. En tout cas, merci le coronavirus parce que ça permet de remettre quelques bonnes habitudes en place. Ne surtout pas louper les prochains épisodes. Comme j'aime garder le meilleur pour la fin, voilà maintenant ce que vous pouvez reprendre la voiture pour aller travailler. C'est sûr que prendre le vélo et arriver transpiré au boulot, ce n'est pas top. Depuis quelques semaines, vous avez finalement une bonne excuse. La baisse de prix de l'essence. Malgré l'effondrement des marchés partout dans le monde, donc celui du pétrole, on peut se faire plaisir et se déplacer avec plus de confort. Et surtout, en toute sécurité. C'est le cas pour dire, ça roule ma poule. Chers auditeurs, je vous souhaite une très belle fin d'émission et à très 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 bientôt.
Merci beaucoup Iris pour cette chronique. Nous approchons de la fin de l'émission et avant de se quitter, je vous propose d'écouter Taicho et son titre Into the Woods sur Radio Campus Angers. Il est temps pour nous de clôturer cette Covidienne. Vous pourrez la retrouver comme d'habitude en podcast sur notre site internet radiocampusangers.com, rubrique La Covidienne. Rendez-vous demain, même heure. D'ici là, restez chez vous, prenez soin de vous et passez une très bonne soirée sur le 103 FM.